Bonjour, encore l'heure pour vous d'écouter notre émission Underscore. Voilà une occasion nouvelle pour vous donner mon avis. Oui, j'ai plein d'avis sur des tas de domaines, mais finalement pour une fois on me demande d'être neutre, lisse et net. Ah, je pense que vous avez compris pourquoi.
Eh oui, bonjour Emmy Mam.
Bonjour Cécile, bonjour Matt.
Bonjour. Alors aujourd'hui effectivement, bah Lisa elle est encore dépressive, hein. Excusez-moi, elle est un peu sur...
On va trouver.
Ouais, là, franchement, la mise à jour, ça lui a fait un peu mal au cœur et tout.
Elle a fait un burn-out.
C'est ça. Et du coup, elle s'est retrouvée hors batterie et d'un coup, paf, elle a pris une voix bizarre. Bref, effectivement, cette semaine, nous allons vous parler du sujet du jour, la neutralité du web. Du net, oui, ou de la toile, comme on disait la semaine dernière. Mais tout de suite, un peu d'actualité.
Alors, quand le ministre de la Défense émet le logiciel libre,
c'est pas vrai.
C'est Next Impact qui raconte qu'avant son addiction à Microsoft et les contrats open bar, le ministère était plutôt favorable au logiciel libre et envisageait une migration. Mais bon, ça, c'était avant.
Oh là là, c'est vrai, c'est une catastrophe.
Voilà, donc on mettra tous les liens sur notre blog www.aa.fr avec le communiqué de l'April et puis un autre article aussi de ZDNet.
Agréable tout ça. Mais ça sent le sapin pour macOS Server ?
Oui, c'est ce qu'annonce ZDNet. En effet, Apple rend obsolète certains de ses composants, comme les serveurs DHCP ou DNS. Alors, il faut dire que les outils matériels dédiés ne sont plus commercialisés depuis 2010. Donc, bon.
Ouais, voilà, mais quand même. Imagine,
tu peux plus mettre les machines à jour, mais bon. Et du coup, ZDNet vous propose quelques outils pour remplacer cette OS, et notamment pour pouvoir accéder aux emails, calendriers et contacts sans avoir besoin de macOS Server. Quoi.
Ça, c'est pas une mauvaise idée, mais bon, c'est quand même dommage. Et Wine 3.0 est sorti ?
On vous l'avait annoncé, ça y est, c'est sorti. Et donc Wine, ça permet d'utiliser des applications Windows sur GNU Linux, mais aussi maintenant sous Android.
Wow.
Donc sur les tablettes sous Android, on va pouvoir utiliser la vieille appli qui oblige tout le monde à utiliser Windows, on va pouvoir enfin se passer de Windows. Faut tester quand même, hein, parce que Wine, des fois, bon...
Je connais pas du tout, oui. On avait parlé de Tor Browser la semaine dernière, là, Tails 3.5 et Tor Browser 7.5 sont disponibles.
Et oui, donc pour tous ceux qui ont vraiment besoin d'être anonymes sur le net...
Et pas besoin de lunettes de soleil, hein.
Non.
Capuche. La capuche.
Ah, voilà, la capuche. Et non, ça c'est pas que pour les trafiquants, mais aussi pour les journalistes, les informateurs et tout ça, quoi.
Les lanceurs d'alerte.
Voilà.
Firefox 58, encore plus rapide ?
Et oui, déjà, le nouveau moteur Quantum promettait d'être plus rapide. Et là, la dernière version de Firefox propose encore deux nouvelles optimisations.
Et Mozilla poursuit la FCC.
On vous a déjà annoncé que la FCC avait annulé en fait la disposition qui protégeait la neutralité du net aux États-Unis, hein, qui avait été mise en place par Obama. La fondation Mozilla, elle n'est pas d'accord avec cette décision, hein, tout comme nous.
Carrément.
Et donc, elle a déposé une plainte, donc on verra ce que ça donnera.
Et Le Monde propose un quiz sur les données personnelles. Ah, oh, c'est pas mal ça.
Oui, à l'occasion des 40 ans de la CNIL, on en a déjà parlé. Et donc, est-ce que vous savez ce à quoi vous avez droit ou pas sur vos données personnelles ? C'est l'occasion de savoir où en sont vos connaissances.
Un guide juridique. Internet en accès libre, quelles obligations ?
Avec l'aide de la Quadrature du Net, le projet de recherche Net Commons vient de publier un guide pratique destiné aux organisations qui fournissent un libre accès à Internet. Bibliothèques, locaux associatifs, magasins par exemple.
Ça, c'est une bonne chose.
Ouais, face aux zones d'ombre parfois entretenues par les pouvoirs publics qui entourent nos droits, c'est à chacun et chacune d'entre nous de les comprendre et de les faire respecter.
Oh, Free coupe les IP en 4 ?
Oui, alors toujours sur la neutralité du net, en fait, c'est pour continuer à utiliser IPv4, parce qu'on a
non,
dit IPv6
arrête,
à 20 ans, mais voilà.
Bah ouais, arrête, l'IPv6, ça fait longtemps que ça devait être en place, et ils sont tous restés à l'IPv4 ?
Et bah oui, mais non, faut demander au gouvernement, parce qu'en fait, c'est de leur faute. Et donc, ils se sont mis à distribuer à 4 abonnés différents la même adresse IP en distribuant les ports. Sauf que du coup, ceux qui veulent s'auto-héberger, ça marche pas, parce qu'ils ont une chance sur 4 de pouvoir s'auto-héberger, les trois autres, tant, c'est tant pis pour eux, quoi. Donc si vous avez des soucis, vérifiez que vous avez bien l'option IPv4 full stack dans la configuration de la Freebox. Et s'il y a l'option, cochez-la bien, parce que ça veut dire que sinon, vous n'avez pas tous les bons ports.
Mais c'est abusé.
Bon, c'est pas tout à fait nouveau, c'était annoncé en 2016, mais bon, voilà, c'est pas génial, quoi.
Eh bien, tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale pour nous retrouver après dans notre sujet du jour sur la neutralité du net. Yard de Cocoon, donc c'était une démo qui a été proposée à la Solkogen
2017. J'ai pas l'accent.
Merci. Donc c'est une démo qui a été composée par le groupe Cocoon, qu'on salue. Donc c'est bon, c'est une démo PC, hein, excusez-moi. Hein. Et elle a été terminée seconde. Et tout de suite, nous passons au sujet du jour, la neutralité du net.
Et oui, alors. Pour cette fois-ci, pour changer un peu de la cuisine, parce que la dernière fois que je vous ai...
Ouais.
Et j'ai essayé de vous expliquer des choses, et on a fait des petites métaphores culinaires. Là, on va parler de la Poste, parce que, bah, en fait, on n'est pas loin du sujet, en fait. Hein, la Poste, c'est... Bon, alors, la Poste, d'avant, veillait sur mes parents. Hein,
c'est ça.
Mais du coup, normalement, son boulot, c'est de transmettre des messages, ce qui est un petit peu effectivement, le... Le même... Ouais, je suis content, je viens d'arriver à démêler les écouteurs de Cécile.
Oui, ceci n'est pas une attaque personnelle.
Et donc, en fait, Internet, son but, c'est aussi de transmettre des messages entre les machines. Et pour parler de neutralité du net, il faut savoir un petit peu aussi comment ça fonctionne dessous. Et pourquoi c'est, du coup, qu'est-ce qui fait que l'Internet est neutre Et pourquoi il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça?
Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, je te coupe juste deux minutes, c'est que ce matin, je regardais une vidéo d'Américains où on leur questionnait dans la rue « c'est quoi la neutralité du net ?» Et là, tu avais l'impression d'avoir des poissons rouges devant. Donc bref, voilà, je vais te laisser expliquer la neutralité du net parce que c'est important, nous, Français, de savoir comment ça se passe.
Je pense que si on demande aux Français, il n'y en a pas beaucoup qui savent non plus, mais
ouais,
bon.
Mais là...
Ça dépendra toujours à quel Français tu demandes.
Bah voilà, c'est ça, c'est un problème d'échantillonnage. Et... Mais alors, un petit historique quand même sur ARPANET, Internet. Je ne vais pas tout faire sur l'historique d'Internet parce que ça prendrait très longtemps. Pour ça, il vaut mieux par exemple regarder l'excellent documentaire de Jean-Marc Manac, Une contre-histoire de l'Internet, qui était passé sur Arte. Mais tout de même, rappelons qu'au début, ARPANET et puis Internet sont nés à l'université, où la recherche se fait, en théorie du moins, entre pairs. Et bah oui, c'est pour ça qu'on parle de pair à pair aussi, c'est pas que pour les machines.
Et poste à poste aussi.
C'est,
hein.
Voilà, c'est la recherche, ça se fait entre pairs. Et la libre diffusion des connaissances est un principe de base, ou en tout cas devrait l'être. On est bien entendu loin des logiques marchandes, plutôt au contraire.
Ah bah non, hein. On va pas faire du commerce maintenant.
De plus, les machines de l'époque étaient assez équivalentes en termes de performance et en type. C'était à peu près toutes des machines fixes, assez volumineuses. Les téléphones mobiles n'étaient encore qu'une invention de Star Trek.
Ah oui.
Bah oui, c'est Star Trek qui a donné inspiré. L'idée de faire des téléphones mobiles quand même.
Waouh.
Enfin, Internet a été conçu pour faire face à une guerre nucléaire, et donc avec un maximum de redondance et aussi décentralisé que possible.
C'est pas mal aussi.
Bah oui, parce que s'il y a une bombe qui tombe sur un serveur, c'est bien de pouvoir contourner et de passer par un autre. Alors un petit rappel du coup sur...
On appelle ça une répartition de risque finalement.
Alors oui, bah, c'est le principe de la redondance. En fait, il y a plusieurs chemins possibles et s'il y en a un qui marche pas, bah, on en essaye un autre. Et le système se débrouille tout seul pour faire suivre. Avec aussi, alors je n'ai pas prévu d'en parler, mais il y a une commutation de paquets, ce qui différencie par exemple du téléphone, ou enfin en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était une commutation de circuit, c'est-à-dire quand on compose un numéro de téléphone, normalement il y a les commutateurs téléphoniques, il y a des trucs qui tournent, enfin à l'époque il y a des trucs qui tournaient, et qui établissaient vraiment un circuit électrique entre les deux postes de téléphone. Alors que là sur Internet, en fait, on commute des paquets, c'est-à-dire qu'on envoie un paquet, puis on envoie un autre paquet, et chaque paquet peut prendre une route différente. Parce que si les premiers paquets ils arrivent et puis que tout d'un coup le serveur, un routeur au milieu tombe, bah, les autres ils vont essayer de passer par un autre chemin. Comment on arrive à faire ça? Eh bah, ben c'est grâce au modèle en couche OSI. Alors le principe, en fait, c'est de séparer les fonctions d'un réseau en 7 couches protocolaires bien isolées. Chaque couche s'occupant d'une fonction sans avoir à connaître quoi que ce soit sur les couches supérieures. Alors le minimum en tout cas. Donc il y a alors, cette couche, on va pas tout détailler non plus, mais en gros la couche 1 c'est la couche physique, donc ça peut être un câble Ethernet ou coaxial, ça peut être les ondes du Wi-Fi. Alors il y a des normes, hein, on vous mettra les détails, mais 802.11 pour le Wi-Fi par exemple. C'est des normes I3E. Et puis alors la couche 2 c'est la couche liaison, qui en fait définit notamment, assigne une adresse qu'on appelle une adresse MAC à chaque matériel, donc chaque carte réseau a une adresse qui est codée en dur et qui normalement ne bouge pas. Alors des fois on peut tricher quand même, mais normalement ça bouge pas. Au-dessus il y a la couche réseau, donc c'est là qu'intervient IP. Après il y a la couche transport, là il y aura UDP et TCP et d'autres beaucoup moins utilisés. Et après il y a trois autres couches qui sont session, présentation et application. Là, on va moins en parler parce que du coup, c'est pas ce qui nous intéresse.
Eh ben non.
Mais voilà, c'est là où se situe en fait tout le reste et toute l'intelligence en fait des applications possibles d'Internet. Donc à chaque fois, la couche la plus basse va encapsuler les données de la couche supérieure de façon aussi transparente que possible pour pouvoir restituer en fait les données à la même couche, mais sur la machine de destination. C'est-à-dire qu'on va descendre sur une machine, on va encapsuler des données et descendre jusqu'à la couche la plus basse. Hop, on envoie. Et puis, normalement, à l'autre bout, hop, c'est désencapsulé et ça remonte toutes les couches. C'est magique.
Un petit peu comme les trucs à billets là, dans les supermarchés là, où il fait des trucs. Là, dans,
bah voilà,
dans
c'est encapsulé dans des, voilà, les transports pneumatiques. C'est un peu la même idée. On met dans un truc et puis on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans pour faire le routage. Il y a juste à savoir à quel endroit on doit l'envoyer. Mm-hmm. Alors bien sûr, sur Internet, il y a des routeurs. Hein, ce n'est pas une machine qui parle directement à une autre. Et du coup, les routeurs, eux, bah, ils regardent le premier paquet, l'enveloppe, ils remontent de une, deux, voire trois couches maximum. et pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'il y a au-dessus. Donc les deux premières couches, donc physique et liaison, dépendent du médium utilisé. Sur, sur Ethernet et sur le Wi-Fi, c'est, les trams en fait, contiennent un identifiant du protocole qui est utilisé au-dessus. Donc sur Ethernet et en Wi-Fi, on peut utiliser autre chose que IP. Mais la plupart du temps, c'est IP. Donc dans les trams Wi-Fi, il y a un endroit qui dit ça, c'est le contenu, c'est pour IP. Après, il y a la couche 3, celle d'IP. Donc c'est, IP, ça veut dire Internet Protocol. Donc c'est le protocole d'Internet, en tout cas le protocole de base d'Internet. Et c'est le protocole qui définit le réseau lui-même, puisque c'est par lui que les machines peuvent s'échanger des données. IP définit une adresse par interface. Donc c'est les fameux 4 nombres séparés par des points qu'on voit dans les films. Alors des fois, les adresses sont même pas valides. Encore dans unité 42, j'ai vu l'autre jour, il y a des adresses fantaisistes parce que normalement, les nombres, ils dépassent pas 256.
192, 168, 16.1, par exemple.
Par exemple. Donc, c'est, ça, voilà, c'est les adresses d'une interface. Sur une même machine peut avoir plusieurs interfaces, donc plusieurs adresses. Et puis, une trame IP contient donc l'adresse source et l'adresse destination pour savoir de qui et où doit aller la donnée. Mais aussi l'indication du protocole qu'il y a au-dessus. Comme dans la trame Wi-Fi, il y avait un truc qui disait c'est de l'IP. Et dans le paquet IP, on va avoir un truc qui dit bah, c'est, ça c'est de l'UDP ou alors ça c'est du TCP. Donc c'est les protocoles qui sont au-dessus. Et au-dessus, donc il y a la couche 4 qui s'occupe de transporter les données en garantissant certaines propriétés, comme l'ordre d'arrivée. Parce qu'en général, c'est utile, mais des fois, c'est pas le cas. Donc TCP, lui, fait en sorte de voir un seul flux d'octets bien ordonné. Donc on sait que cet octet-là, il est après le flux d'avant, etc. Alors que UDP, il y a Cécile qui se marre. Je sais pas ce qu'elle fait.
Regarde.
Donc tu, alors, bonne question. Ça utilise quoi à ton avis, ça, UDP ou TCP? où en étais-je?
Sur l'UDP.
Alors, UDP. Donc, UDP, lui, il s'en fout. Il se contente d'envoyer des messages séparés. Pas forcément dans l'ordre, en fait. Et puis, même si ça arrive pas, c'est pas forcément grave. Donc, pour de la vidéo, ça peut suffire. Hein. Si on perd un peu d'informations, bah, l'image est un peu plus moche, mais on voit quand même.
Ouais, on voit qu'il y a des petits pixels qui baladent.
Et puis, alors, au-dessus, dans toutes les couches du dessus, en fait, c'est tous les autres protocoles qui se basent là-dessus. Donc, il y a SSL, TLS, FTP, HTTP, tout ça, BitTorrent. Et donc souvent le protocole à utiliser est indiqué par le numéro du port de destination. Alors il y a un organisme qui s'appelle l'IANA qui maintient une liste officielle des ports possibles. Donc par exemple le port 80, c'est réservé au protocole HTTP. Donc des fois vous voyez dans votre navigateur 2.1.2.3.4 machin, c'est parce que c'est pas le port par défaut pour ce service-là. C'est pour forcer l'utilisation d'un autre port.
Et oui, parce que tout le monde n'utilise pas, ne sait pas qu'en haut, il y a toute l'adresse, en fait.
Ah, il y a toute l'adresse, ouais.
C'est pas que dans tout Google, en fait.
Non. Et donc, alors les ports au-dessus de 1024 sont en général libres, parce qu'il faut aussi assigner un port pour la source, en fait, du message. Mais des fois, on s'en sert pour certains services. Donc, c'est cette architecture bien spécifique qui permet à Internet d'accepter de nouveaux protocoles qu'on n'aurait même pas pu oser imaginer à l'époque de sa création. Et il suffit de définir ça dans les couches supérieures sans avoir à changer quoi que ce soit au niveau de TCP et IP. Ah. On dit que l'intelligence est en bout de réseau, puisqu'il suffit de mettre à jour en fait, les machines au bout de la connexion, le serveur et le client, hein, mais sans avoir à toucher au routeur. Donc du coup, quand on a inventé un nouveau protocole super machin et tout, eh ben, y a juste à envoyer des logiciels et à dire installer ça, installer WhatsApp, installer machin. Il n'y a pas besoin de changer tous les routeurs pour une nouvelle application comme WhatsApp ou autre chose. C'est quand même vachement pratique. Alors tout comme la poste qui se contente de transporter le courrier sans avoir à regarder à l'intérieur, bah là c'est pareil. Donc si on voulait transposer TCP/IP sur un modèle postal, bah, l'adresse MAC ça serait par exemple la position GPS. Ça ne change pas au niveau d'une maison, d'un immeuble. Mm-hmm. L'adresse IP ça serait l'adresse postale de l'immeuble. Qui parfois change, hein, parce que des fois la poste elle dit ah ben non, c'est plus quartier bidule, c'est route de machin au 4300.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que nous parlons en adresse web avec des noms de domaine, mais en fait les ordinateurs ils s'en fichent. Eux derrière ils traduisent ça en chiffres.
Ah là voilà, grâce au DNS, alors ça faudrait qu'on en parle un autre jour, mais. et puis donc il y a aussi. Alors l'adresse source en fait c'est celle qu'on met au dos de l'enveloppe hein, pour obtenir une réponse, parce que c'est bien pratique. Alors attention, certaines adresses sont privées, donc c'est pour pour un usage local, bah, c'est l'équivalent en fait de bureau 203 par exemple. Donc si vous mettez bureau 203 dans une enveloppe, dans le même immeuble ça veut dire quelque chose, mais dans un autre immeuble ça veut dire rien dire du tout. Et le port, bah, ça serait par exemple le nom sur la boîte aux lettres, ou le numéro d'appartement, ou l'étage, des choses comme ça, pour dire dans cet immeuble-là, à telle adresse, c'est à telle boîte que ça doit aller. Et donc bah, l'étage 80, le port 80, c'est réservé pour HTTP. Donc dans un même immeuble, on peut avoir une boutique qui rend des services, et puis des particuliers ou d'autres entreprises. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme atteinte à la neutralité du net? Bah, y en a plein. Alors il y a le AD de ADSL, hein, ça veut dire asymétrique. Donc théoriquement, le fournisseur, il pourrait vous laisser choisir, hein, mais en général, il vous oblige à prendre le débit descendant supérieur. C'est-à-dire que vous avez plus de possibilités pour télécharger que pour vous envoyer des données. Donc déjà, vous avez moins de dispositions à être fournisseur de services sur Internet avec ça. Il y a le NAT aussi. Donc là, ça sert à cacher...
Eh oui, c'est pas des petites couettes, hein.
Non, c'est pas des NAT, c'est le NAT. C'est Network Address Translation.
Hein.
Non. Ça sert en fait à cacher plusieurs machines derrière une seule adresse publique. Alors quand on n'a plus beaucoup d'adresses IPv4, ce qui est le cas, ça permet de partager une adresse. Souvent, votre fournisseur d'accès, il vous donne une IPv4, une adresse IPv4, et encore quand il en a assez. Et puis vous, quand vous avez plusieurs, une tablette, machin, etc., la box vous donne à chaque machine une adresse privée. Et donc cette adresse, elle n'est pas visible depuis l'extérieur.
Normalement.
Eh ben oui. Donc du coup, alors on peut configurer la box pour rediriger un port vers une certaine machine, mais bon, c'est un peu compliqué. Et puis du coup, il y a certains FAI qui se sont mis à faire du NAT entre ses propres clients, dont Free, dont on a parlé juste avant la pause, qui du coup partagent une même adresse en 4. Donc c'est un petit peu gênant parce qu'il y en a un sur 3 qui peut offrir des services sur Internet et les autres, ils peuvent pas. Après, il y a d'autres trucs comme le proxy transparent ou aussi des faux certificats TLS. Alors, typiquement, sur le mobile, si vous essayez de faire du chiffrement, bizarrement, il y a tous les sites qui sont certifiés par SFR. Alors, en fait, c'est parce que SFR se fait passer pour le site et du coup, il vous dit non, c'est ça l'identité, machin, le certificat, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Du coup, la confidentialité des échanges, c'est pas génial. Il y a le DPI. Alors, le DPI, en fait, c'est Deep Packet Inspection. Alors, c'est carrément la fouille rectale parce qu'en fait, on ouvre tout. Bah oui, en fait, on ouvre tout, on regarde tout ce qu'il y a dedans, on remonte jusqu'à toutes les couches pour savoir si vous auriez pas utilisé du BitTorrent là, dans ce paquet-là. Là. Ah si, mais c'est pas bien, ça c'est interdit dans votre forfait. Ah bah oui, alors qu'en fait, normalement, Internet, c'est Internet. Si on n'a pas tout Internet, bah c'est pas Internet. Mais bon, voilà, BitTorrent, ça utilise beaucoup de bandes passantes, mais bon, ça sert aussi à envoyer des ISO de Linux, merde.
Ça faisait un moment que je n'ai pas foutu les pieds à la poste, mais je ne me souvenais pas qu'ils faisaient des fouilles rectales. Je pense que s'ils en faisaient, je m'en souviendrai.
Contrairement à la poste, certains fournisseurs d'accès se permettent de faire ça. Alors, il y a Facebook qui avait une super idée en Inde, notamment, c'était le Free Basic, c'était ce qui arrive aux États-Unis aussi, hein, c'est des forfaits, en fait, t'as tout compris, t'as Facebook illimité, mais le reste, faut payer, donc en fait, ils vont regarder dedans, hein, est-ce que tu te connectes à Facebook ou autre chose, quoi. Et donc, mais du coup, pour les nouveaux qui voudraient proposer un service équivalent, par exemple, qui voudraient concurrencer Deezer ou Spotify, si dans votre forfait, vous avez Spotify en illimité ou Deezer en illimité, les concurrents, ça va être compliqué pour s'imposer, quoi. Donc voilà. Alors, on vous mettra aussi quelques liens pour rigoler, parce que, alors, si vous parlez anglais, il y a les vidéos de John Oliver sur le sujet, il faut absolument voir ça, c'est poilant. Alors, il y a aussi une pub, une vidéo de Burger King qui essaie de vous expliquer la neutralité du net.
Ouais, mais c'est celle-là que j'ai vue.
En achetant un burger. Donc, du coup, maintenant, vous payez plus parce que machin et tout, vous devez attendre. Enfin, ouais. Et alors, la quadrature du net a un dossier entier sur le sujet qui est très fouillé. Et puis, bien sûr, il y a la conférence de Benjamin Bayard qui s'appelle Minitel 2.0, qui date un peu, mais qui est toujours valable aujourd'hui. Et enfin, il y a une plateforme, Respect MyNet, qui permet de signaler toutes les infractions à la neutralité du net.
Bien, merci, Aimé Human. Oh, vas-y, refais.
Respectez mon autorité !
Exactement, voilà. Son altérité, non mais oh. Eh bien, merci MMMA, nous allons faire une petite pause musicale avant de nous retrouver pour l'agenda. Ouais. Encore une musique de démo. Donc c'était Fluke by Alter. Donc c'est une démo PC, oh, encore PC, qui a été diffusée à la Function 2017 et qui avait terminé quatrième. Donc voilà, c'était encore un petit rappel de nos chères musiques de démo scène que nous bien affectionnons bien. Nous allons passer à l'agenda.
C'est à l'agenda.
Alors,
un petit agenda là, avec un atelier adulte, dessiner et fabriquer ses bijoux à la découpe laser.
Eh oui, débutant ou expérimenté, fabriquez et repartez avec votre objet. À l'aide d'un animateur, vous découvrirez les processus de fabrication numérique.
Oh,
chaque trimestre, un objet différent est proposé.
Oui.
Donc voilà, c'est création de bijoux à la découpe laser, boucles d'oreilles, broches, pendentifs, tout ça. Vous le dessinerez vous-même votre bijou et le découperez en plexiglas, en cuir ou en chambre à air de vélo.
C'est trop beau, ça, je le veux.
Donc c'est un atelier, c'est payant, c'est 35€ sur inscription.
Ah,
il y a
même
5 places, donc vous serez en petit comité avec tout le monde autour de vous pour vous aider. C'est au Bipab Lab, rue Courcomer à Cré, le vendredi 23 février de 17h à 21h.
Nous allons frotter la boule de cristal. Que vois-tu dans la boule?
Sysadmin, que dit une IPv4 quand elle part en vacances? Oh là là, il n'y a plus de place sur aucune plage.
Libriste, si une entreprise française faisait du matériel libre pour faire de la cuisine, elle s'appellerait Molinix.
Macounet, ton serveur Mac tombe en panne et il n'y a pas de remplacement. Bad Apple.
Technophile, c'est dur d'être connecté.
No life, je ne suis pas un robot. Ton capca me colle à la peau.
Lanceur d'Arlette.
Lanceur d'Arlette. Elle est magnifique, celle-ci.
À une chronique de... Bref. Lanceur d'Alerte, n'oublie pas les oignons dans la tortiflette.
Et sur ce magnifique fou rire de Cécile, nous allons rendre l'antenne. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir Matt. Au revoir Cécile.
Au revoir. Putain, on a perdu Cécile.
Oh,